Touche pas mon schiste. Thierry Gauthier.
Paul Renard.
Voilà, bienvenue à l'émission Gaz de Schiste tous les 15 jours. Cette fois-ci, donc, on a un invité qui est également un membre du délégué du 07 Touche pas à mon schiste. Alors, Christophe Léon, bonjour. Merci bonjour. D'être présent aujourd'hui. On retrouve bien sûr Paul Renard comme tous les 15 jours.
Bonjour Thierry.
Voilà, alors aujourd'hui, l'actualité est assez chargée. Hein. On avait parlé il y a 15 jours de ce colloque et ce contre-colloque sur lequel on reviendra. Mais avant tout, il y a quand même une bonne nouvelle, cette fois-ci à l'étranger, en Europe, qui est celui de la Bulgarie.
Oui, une très très bonne nouvelle parce qu'en fait on a appris hier soir que les députés bulgares ont donc adopté une résolution qui interdit l'utilisation de la technique de la fracturation hydraulique pour l'exploitation et l'extraction des huiles et gaz de schiste dans tout le pays et sur tout leur territoire de la mer Noire. Quoi. Ils rajoutent que toute violation à cette résolution sera sanctionnée d'une amende de 100 millions de levas. Ça vous dit peut-être pas grand-chose,
mais ça correspond. Levas, ça vous parle pas.
Ouais. Mais par contre, ça correspond à 50 millions d'euros quand même. Et d'une confiscation des équipements. Bon, cette résolution a été obtenue avec 166 voix pour, 6 contre et 3 abstentions.
Donc c'est vraiment unanimité. Alors pourquoi brutalement la Bulgarie apparaît comme le leader des opposants en Europe du gaz de schiste et emporte elle aussi
le leader avec la France.
Avec la France, bien sûr.
Comme en France, exactement, c'est la même chose qu'en France, c'est en fait la mobilisation citoyenne qui a fait plier le gouvernement, quoi, en fait. Et vraiment, les gens qui participent à cette mobilisation sont vraiment déterminés. Ils demandent, donc là, ça a été une résolution prise par les députés, mais maintenant, les opposants demandent d'aller plus loin, demandent une loi, quoi, en fait. Et a priori, qu'il y ait une partie de la, on va dire, de la droite bulgare qui soit pour les gaz de schiste, il y a de fortes chances que cette loi passe, quoi. C'est quelque chose de très intéressant.
C'est un pas important parce que la Pologne n'est pas très loin et on sait que la Pologne est engagée de façon autre
Et c'est en plus un moment important, quoi, parce que on sait que l'Europe en fait hésite à prendre position et à sortir un texte pour légiférer sur le gaz de schiste. On ne sait pas s'il légiférait, dans quel sens ça irait, c'était plutôt pour ou plutôt contre. Donc, pour l'instant, plus il y a de pays de l'espace européen qui vont se déterminer de cette manière, plus l'Europe fléchira dans ce sens-là. Quoi.
Parce qu'on rappelle que les lois européennes sont supranationales et s'imposent, bien sûr, aux lois, même en France, où cette loi
c'est un peu
amendée
notre crainte.
Est parue.
Voilà. C'est un peu notre crainte, parce qu'en fait, si l'Europe permettait la fracturation hydraulique, autorisait ce mode de forage, on aurait là vraiment beaucoup de mal à se battre contre, quoi.
D'accord. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors justement, vous avez été un peu courant grâce à la présence justement au colloque qui se tenait à Paris. Là, je m'adressais à Christophe Léon qui était présent à ce colloque.
Non, moi j'étais pas présent au colloque, j'étais présent à la coordination nationale des collectifs de France.
De France, qu'on parlait tout à l'heure. Il y avait, semble-t-il, donc à cette coordination nationale des collectifs, il y avait des Bulgares.
Alors, les Bulgares ne participaient pas à la coordination nationale des collectifs de France. Hein. Ils étaient présents. Au contre-colloque et à la manifestation,
Où il y a plusieurs choses,
N'était pas organisée par la coordination nationale. La coordination nationale a travaillé samedi et dimanche dernier, et le colloque et contre-colloque avaient lieu mardi dernier.
Mardi, tout à fait.
Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, par contre, la coordination nationale, effectivement, donc, s'est réunie.
Rappelez-nous, qu'est-ce que la coordination et comment elle fonctionne finalement. Cette coordination nationale
Cette coordination nationale des collectifs de France se réunit assez régulièrement. Ce sont des temps de débat, d'échange, de mutualisation d'idées. C'est une sorte de creuset d'où émerge une force de proposition. Ça n'est pas un lieu véritablement de décision. Les collectifs se rassemblent.
Des exemples de collectifs, par exemple, qui se rassemblent, qu'est-ce qu'on a
On a des collectifs locaux, tels que Touche pas à mon schiste, par exemple.
Mais
aussi des organismes, tels que ATTAC ou les Amis de la Terre, par exemple, France Liberté, etc. Ça fonctionne un petit peu sur la même base que le collectif 07, si vous voulez. moins, on va dire, c'est moins structuré, en fait, tout en ayant pour objectif une action nationale.
C'est toujours l'idée d'avoir une perception transversale de la société et avec un retour d'expérience de milieux très différents. Là, effectivement, entre Attaque, France Liberté, bon, on est toujours dans des sujets d'opposition. Mes amis de la Terre, on a souvent des écologistes. On a aussi, on a eu, dans son combat, des chasseurs également. On a eu beaucoup de gens autour du milieu naturel aussi. Donc, vous essayez d'avoir un panel assez varié de...
Eh bien, cette coordination est ouverte à tous les collectifs. Sans exclusive. Par contre, elle ne se positionne pas.
Politiquement, vous voulez dire, c'est ça ?
Elle se positionne pas politiquement. Elle essaye de faire la jonction de tout ce qui fait unanimité au niveau des collectifs de France. C'est une réunion qui tente de mutualiser complètement les actions et de ressortir tout ce qui est commun.
D'accord. Alors vous êtes mandaté par Touche pas mon schiste.
Alors nous sommes mandatés par le collectif 07 en fait, puisque le collectif 07 en fait est représenté dans cette coordination nationale par 5 à 6 délégués, suivant les réunions, de manière à ne pas non plus submerger par son nombre cette réunion. En fait, le collectif 07 étant très développé par rapport à l'ensemble du mouvement en France...
Vous voulez dire que s'il y avait un délégué par
deviendrait
collectif...
Deviendrait prépondérant. Voilà, oui, si vous voulez, les collectifs locaux sont représentés par 1 ou 2 délégués à la coordination nationale. Le collectif 07 est composé, ne serait-ce que pour... au niveau des collectifs locaux de 80 collectifs, on serait donc 160 à cette coordination nationale.
Ça serait impossible de fonctionner.
On ne pourrait pas fonctionner. On aurait une prépondérance des décisions et des avis du 07 qui serait insupportable pour les autres, évidemment.
Revenons un peu aux orientations qui ont été définies, parce que vous avez travaillé, vous n'avez pas fait que parler, d'échanger des idées. Vous avez également pris un certain nombre d'orientations, finalement, dans cette coordination nationale. Rapidement, c'est quoi, finalement, quels sont les sujets et puis les orientations qui ont été discutées.
Oui, alors les collectifs ont déjà rappelé la base, c'est-à-dire que dans un communiqué de presse, qui est notre, au niveau national, notre moyen de communication, l'exigence concernant l'abrogation de l'ensemble des 61 permis restants et l'abandon des 84 demandes qui sont en cours d'instruction.
Alors le but effectivement, c'est d'avoir un communiqué assez précis afin, parce que on voit que dans la loi par exemple on joue un peu sur les mots et je pense que le collectif veut être très précis afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur sa position et qu'on ne fasse pas dire ce qu'il ne dit pas par exemple.
Alors effectivement on fait très attention à ce genre de choses et à chaque réunion on avance dans la précision et on avance aussi dans notre expertise concernant les gaz de schiste, les modes d'exploitation, les lois, etc.
Paul, vous voulez intervenir par rapport à ça.
Je veux dire, c'est que les collectifs donc ils exigent en fait le retrait de ces permis et l'abandon des 84 demandes en cours. Mais en fait donc ce qu'on demande surtout quoi, c'est que maintenant ce qu'il faut c'est annuler cette loi, du moins le deuxième article qui parle mal de la fracturation hydraulique, qui ne la définit pas, et surtout engager une réforme du code minier. Y intégrer le débat public, c'est-à-dire que demander l'avis des citoyens, donc modifier le code minier, modifier la loi,
intégrer les acquis de la charte de l'environnement.
Voilà. Et ensuite,
très précis.
Voilà. Et ensuite, seulement à ce moment-là, eh bien, on pourra recommencer à étudier les permis un par un et voir ce qui est possible et pas possible. Voilà, dans un premier temps.
On va parler juste de la charte sur l'environnement et sur l'eau qui existe. J'ai entendu le président de la République dire que finalement, il y avait trop de lois sur la protection de l'eau en France. Ouais. Ça peut poser souci. Alors, vous avez par rapport, c'est un président, peut-être un futur candidat, vous avez aussi une action à faire par rapport à tous les candidats qui vont se présenter pour la présidentielle, puis ensuite derrière, il y a des législatives qui vont arriver.
Alors effectivement, la CN a travaillé aussi sur ce sujet pour élaborer une série de questions aux candidats. Donc un texte a été rédigé qui est maintenant à disposition des collectifs locaux qui vont interpeller les candidats à l'aide de ce texte.
Leur demander de se positionner de façon... net, on va dire, sur...
Oui, l'objectif est d'une part de leur demander de se positionner, d'autre part, en même temps, la rédaction d'un tel texte de questionnement permet de montrer le consensus de l'ensemble des collectifs de France sur ces questions. Donc on arrive à un positionnement de la coordination nationale qui permet d'entrer en débat au niveau de des modifications politiques de notre pays.
Parce que vous avez une force qui est celle justement d'être dans plusieurs couches de la société, enfin bon, d'être assez diverse finalement. On a remarqué dans la lutte contre le gaz de schiste, c'était pas du tout politique, c'était pas du tout non plus, on va dire, entre les écologistes et on a parlé tout à l'heure des chasseurs, on a trouvé des mouvements très très différents et opposés sur d'autres combats.
Alors
réunir dans votre.
Je ne dirais pas que ça n'est pas du tout politique. C'est en fait éminemment politique, mais. Notre fonctionnement, en tout cas au niveau du collectif 07, déjà, est ce qu'on appelle un fonctionnement pluripolitique transversal, c'est-à-dire que au niveau du collectif 07, on a des collectifs locaux, mais on a aussi des partis, on a aussi des syndicats, des associations existantes, etc. Vous parliez tout à l'heure des chasseurs, des pêcheurs, etc. L'objectif est d'arriver à un consensus, en fait. Et donc, c'est ce qui fait la force, c'est ce qui fait le mouvement citoyen, c'est que là, on a une convergence d'avis, de propositions, d'analyses qui, et c'est pour ça qu'on l'appelle transversale, qui traverse complètement les clivages existants, politiques, sociaux, etc. Là, on travaille sur le consensus.
Vous avez peut-être inventé une nouvelle méthode, une nouvelle façon que le citoyen reprenne justement la politique.
Voilà, c'est-à-dire fait, c'est qu'on fait de la politique, mais on n'est pas partisan. Quoi.
Ah, c'est ça.
La définition de base, c'est ça. Quoi. Faire de la politique sans être partisan.
Alors, c'est un peu ces mouvements aussi qu'on trouve des indignés, etc. C'est un peu ça aussi. C'est reprendre en main ces choix. Savoir que les choix politiques, c'est pas que tous les 5 ans ou à chaque élection, ça peut être aussi de tous les jours.
C'est surtout pas tous les 5 ans avec des promesses qui sont pas tenues, quoi.
Oui, en plus, voilà.
Quel que soit.
Voilà. Oui, et puis effectivement, on s'aperçoit que il y a un certain nombre de mouvements comme ceux-là. Il y a celui des indignés, il y a le nôtre, il en existe d'autres encore qui fonctionnent maintenant d'une façon différente de ce qui se passait auparavant. C'est aussi une marque de notre époque et semble-t-il le moyen pour la société civile d'arriver à reprendre le pouvoir sur un certain nombre de choses.
Alors les débats que vous avez eus au sein de ce collectif vont nous amener également au colloque parisien là, avec un titre absolument extraordinaire, hein, l'interdiction française, comment en sortir, c'est quand même... C'est pas de la langue de bois finalement, c'est assez direct.
Ah non, c'est
pire qu'une langue de bois, c'est de la provocation. C'est mettre au grand jour des manœuvres qu'on supposait, qu'on savait, mais qui n'étaient pas dites, et là c'est dit.
Rappelons donc, alors, qu'est-ce que ce colloque dont on a parlé là il y a 15 jours, qui met ce colloque en route et qui sont les invités prestigieux de ce colloque? On peut en reparler juste deux minutes pour recadrer le. Manifestation.
Le colloque est organisé par le député Gonod qu'on connaît bien, qui faisait partie de la commission au moment du vote de la loi. Ce colloque, donc, il est quand même, il faut le dire, donc avec son titre, que vous avez rappelé, c'est l'interdiction française. Comment en sortir? C'est le titre d'un des ateliers, nous intéresse le plus. Ce colloque, il est quand même sous le haut patronage de Monsieur François Fillon, de M. Éric Besson, avec la présence de Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc, les intervenants à ce colloque ne sont que des privés, des foreurs.
Des
industriels. Donc, à partir de là, on voit, enfin, ce colloque souligne la collusion entre les politiques et les industriels, quoi, en fait. Donc, c'est ce qui nous.
Vous regrettez dans ce colloque le fait finalement que tous les mouvements d'opposition et même de proposition sont complètement absents et finalement n'ont pas du tout été invités. Alors,
oui, et puis en plus, ça souligne le double langage du gouvernement, quoi, qui d'un côté, quand Nicolas Sarkozy est en visite au Vence, nous dit non, mais je suis toujours contre la fracturation hydraulique, je suis toujours déterminé, et que 15 jours plus tard, on a un débat comme ça avec son Premier ministre, son ministre de l'Industrie et son ministre de l'Environnement. C'est du double langage.
C'est même pas prudent avant les élections, finalement.
Non, mais c'est pas intelligent.
Non, non. Voilà. Bon, on va leur donner le fond d'intelligence.
Oui, exactement, on va essayer on peut leur faire des cours.
Donc alors, justement, pour contrer ce colloque assez étonnant quand même, je crois que beaucoup de gens ont été surpris par l'intitulé, et puis quand on voit les invités, il était décidé finalement d'un contre-colloque, justement, qui s'est tenu exactement le...
Hier,
le 17, voilà. Donc
le même jour.
Le même jour. Voilà. Alors, ce contre-colloque, lui, alors qu'est-ce qu'il avait justement comme définition? Alors, pas celui de sortir de la loi par tous les moyens.
Ce contre-colloque, mais... déjà, le colloque a été organisé. En fait, pour revenir une seconde sur le colloque, ce colloque a été organisé hier. Et en fait, les médias en ont très peu parlé aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Ouais,
il en est rien sorti.
Il y a eu triple A, il y a eu le bateau qui a coulé.
Mais même l'organisation de ce colloque, c'était d'en faire parler avant et de faire parler de cette contre-attaque des industriels face à la loi, en fait.
D'ailleurs, c'est très surprenant. Pourquoi il n'y a pas de relais médiatique sur
le contenu, parce que ça ne pouvait pas déboucher sur des décisions. La loi actuellement, elle cadre les choses.
Bien sûr.
Bon, une décision ne peut pas sortir d'un colloque comme celui-ci.
Mais bon, on a l'habitude de voir sur des choses qui ne sont pas effectivement normalement... efficiente, une communication importante. Oui. Et c'est une chose qu'on n'a pas vue.
Le but, c'était la communication avant, quoi, d'en faire parler avant et de mettre dans tous les titres de tous les médias, de mettre cette phrase, l'interdiction française, comment en sortir. Après, c'est la seule chose qui les intéressait, en fait,
c'est de la provocation.
C'est en même temps comment faire entrer dans la tête des gens petit à petit que c'est idiot de.
Qu'il est possible de contourner cette loi, que ça pourrait devenir une réalité.
Il me semble que c'était quand même aussi lié à l'énergie, c'est-à-dire qu'on se posait la question de l'avenir énergétique en France et se disait qu'un tel gisement de gaz sous nos pieds, c'était quand même dommage de s'asseoir dessus à cause de...
On avait de l'or sous nos pieds, Total dit 30 ans d'indépendance énergétique, et comment est-ce qu'on pouvait ne pas accepter ça,
quoi. La petite phrase de Nicolas Sarkozy sur l'eau, justement, en disant que les lois sur l'eau étaient trop contraignantes, viendrait justement de... Parce qu'un des problèmes du... gaz de schiste, on sait bien, c'est la pollution des eaux de surface profonde. On a fait un sujet là-dessus. Peut-être que cette petite phrase découlerait de ça.
Oui, cette petite phrase, elle découle de ça. En fait, mais je pense qu'elle tient compte. Elle parle autant des gaz de schiste que des rejets de l'industrie dans l'eau, de l'industrie chimique et tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a d'énormes contraintes avec les lois sur l'eau. Et qui contraignent les industriels, mais de tout poil, quel que soit le gaz de schiste ou l'élevage de porc ou la fabrication de produits chimiques, quoi. Donc, je pense que c'est quoi sur l'eau, là, ce qui gêne les industriels, ça gêne tous les industriels, quoi. Donc, il y avait ce contre-colloque qui était organisé. Donc, ce contre-colloque, il était organisé par le collectif 77 de Seine-et-Marne.
D'accord. Qui est très concerné.
À l'hôtel de région d'Île-de-France. Donc, en présence du président, de monsieur Huchon.
Qui a organisé aussi par nos fracking.
Ah, oui. Donc c'est Huchon qui a accueilli et qui a accueilli tout le monde et qui était présent. Donc ça, c'était un signe fort.
Oui, il y a une caution, effectivement,
de l'opposition, avec des interventions super intéressantes, avec des interventions du professeur Picot. Donc on en avait parlé dans une de nos émissions quand on a parlé de l'eau. En fait, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur les dangers des forages, de la fracturation hydraulique par rapport à l'eau, avec l'intervention de beaucoup de gens du collectif 77 qui avaient fait un énorme travail, qui font un gros travail d'information. Donc une fille qui s'appelle Françoise Lénard, qui a un blog qui s'appelle la revue Œil Ouvert, sur lequel on trouve tout ce qui est dit par les médias actuellement sur le gaz de schiste.
D'ailleurs, ce qu'on remarque sur l'ensemble des publications sur les anti-schistes, c'est vraiment la pertinence des commentaires. C'est très fouillé au niveau information, vérifié. Et on est vraiment dans des domaines pointu, on va dire. Il n'y a pas l'approximation, ça qui est bien.
Oui, tout à fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a dans tous ces collectifs, principalement en Ardèche, un groupe de scientifiques qui sont des gens reconnus, tout à fait crédibles, qui travaillent énormément et qui nous communiquent en permanence leurs études, quoi.
La documentation évolue également et on découvre, notamment sur les types de prospection, des choses choses nouvelles qu'il faut intégrer, parce que l'industrie pétrolière est assez réservée sur la publication de ces,
voilà, sur
ces techniques,
sur
de ces méthodes, ces données, effectivement. Voilà. On peut rappeler que dans la région, il va y avoir une manifestation importante, hein, qui est celle de... du 29, hein, de dimanche, c'est ça?
Alors, dimanche 29, donc il y a l'association Touche pas à mon schiste, donc organise une grande réunion d'information, qui est en même temps son assemblée générale, mais qui est totalement ouverte au public. Donc ça se passera à Viviers, dimanche à 15h,
au centre culturel de Viviers. Mm-hmm, 15h à 18h.
Voilà. À cette occasion, donc, on va présenter à tout le monde, au public qui sera là, toutes les problématiques juridiques, environnementales. On va vraiment donner une information complète, la plus complète possible, faire le point sur aussi bien sur la loi que sur l'évolution des techniques.
Et ça fait un an en plus que vraiment le combat a été lancé.
Et ça sera
dans la région,
en même temps l'anniversaire de notre création et du départ du combat. Quoi.
Et alors, autre date aussi, le 11 février un peu plus tard,
autre date importante,
Saint-Julien.
Le 11 février à Saint-Julien, donc en Haute-Savoie, c'est à la frontière entre la Suisse et la Haute-Savoie. Donc il y a un grand rassemblement. Parce qu'en fait, vous savez que le collectif 07 a pour mission en fait de fédérer donc la lutte au niveau de la région, puisqu'on est soutenu par la région Rhône-Alpes. Donc on va aller aider nos amis de Haute-Savoie qui sont concernés par le pays de Gex. Et d'ailleurs, on a appris il y a très très peu de temps, il y a deux ou trois jours, qu'un forage avait eu lieu et qu'un essai de fracturation avait eu lieu à la frontière entre la France et la Suisse par un forage sous le lac Léman, quoi, en fait. Donc ce permis pose beaucoup de problèmes parce qu'il est à la frontière franco-suisse. Les Suisses n'en veulent pas du tout, ils ne sont pas concernés, mais ils n'en veulent pas du tout. Et en Haute-Savoie, en fait, la mobilisation a démarré très tardivement, il y a très très peu de temps, mais en même temps elle prend une ampleur énorme et très rapidement. Donc il y a le samedi 11 février à Saint-Julien, à la frontière donc franco-suisse, près de Genève, donc un grand rendez-vous, en fait une grande manifestation que nous allons évidemment soutenir
également et relayer dans l'information. Voilà. Tout à fait. Voilà, je crois qu'aujourd'hui on a fait le tour. Il y a encore d'autres points, non?
Je pense qu'on a fait le tour. En fait, c'était du frais,
tout date d'hier. Alors bien sûr, voilà, les gens peuvent après aller sur les sites internet, liens où toute la formation est en lien. Donc il n'y a pas de souci.
Voilà.
Voilà. Merci Christophe Léon, merci Paul Renard.
Merci Thierry.
Dans 15 jours.